48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à toutes. On m'entend ? Oui. Bonjour à toutes et à tous dans ce 87e MAG en direct de 48 FM. Donc le programme va rester le même, une heure d'émission, deux thèmes d'actualité locale. Avec moi pour présenter ce MAG, Nicolas.
Salut.
Salut. Aujourd'hui, nous allons donc parler prévention et art contemporain avec comme invité Magali Jalbert, chargée de prévention à l'ANPAC 48, donc l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie de Lozère. Bonjour Magali.
Bonjour.
Ça existe toujours cette association?
Ça existe toujours.
Et David Thuet qui est donc artiste.
Bonjour.
Donc nous allons commencer cette émission avec vous Magali. Est-ce que vous pouvez tout simplement commencer par nous présenter un petit peu l'association l'ANPA?
Oui, alors l'ANPA concrètement c'est un centre de soins et d'accompagnement sur tout ce qui concerne les conduites addictives. Donc tabac, alcool, mais pas que, ça peut être le sport, les écrans, les jeux vidéo notamment. Et la spécificité aussi sûrement, c'est qu'on a une CJC, consultation jeune consommateur, qui est un lieu dédié avec un staff dédié et des outils aussi interactifs pour accueillir et répondre aux jeunes et toutes les questions qui se posent sur les addictions, mais pas que.
Donc le public, c'est les jeunes en priorité ou c'est...
C'est tout public avec une consultation jeune consommateur spécifique pour les jeunes.
D'accord. Quel est, vous, votre rôle au sein de cette structure?
Alors moi, je suis sur le pôle prévention et en fait, nos missions, puisqu'on est deux, c'est d'intervenir auprès de tous les établissements scolaires de Lozère, mais pas que, aussi en entreprise, pour pouvoir informer, sensibiliser et rendre le dialogue possible sur ces conduites addictives qui sont parfois tabous.
Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un peu tabou aujourd'hui de parler de ces conduites-là avec les jeunes?
Alors avec des jeunes, c'est plus facile.
C'est plus facile. Ouais, c'est Ils sont facile. Conscients de qu'aujourd'hui on peut tomber facilement dans des addictions. Ou
des
pas
fois,
toujours.
Oui, ouais. Des fois non. Bon, il y a de tout, mais quand même ils palpent le malaise qui entraîne ces conduites addictives.
Ouais, c'est vrai que quand on a quand on parle de prévention. On pense souvent à quelque chose de moralisateur et les jeunes n'aiment pas forcément ça. Comment ça se passe avec eux?
Alors ça se passe bien. Et en fait, c'est vrai que nos interventions sont basées sur le dialogue, l'échange et l'écoute. De fait, aucune intervention ne se ressemble. Et si la préoccupation d'une classe est de parler de cannabis, eh ben, on parlera un petit peu plus de cannabis, sans bien sûr juger, mais écouter, voilà, eux... quel est leur ressenti, que ce soit au niveau du plaisir, des attentes, des points positifs, des points négatifs. Et du coup, ça nous permet de parler de tout leur environnement et d'aiguiser leur esprit critique et d'essayer de trouver avec eux peut-être des solutions pour au moins en parler, voir comment faire pour mieux faire.
D'accord. Et quels outils, par exemple, vous pouvez mettre en place? Parce que vous dites que chaque intervention est différente. Donc j'imagine qu'il y a peut-être des présentations plus magistrales, d'autres...
Présenter des films plus... comme sur la prévention, vous dire?
Alors on présente des courts-métrages débat, mais en fait c'est des courts-métrages qui ont été réalisés par les jeunes, pour les jeunes. Donc toujours avec un esprit de pair pour qu'il y ait un repérage dans le temps, dans le visu, dans la parole.
Ouais.
Voilà. On utilise beaucoup des expositions aussi qui sont réalisées par des jeunes créateurs. Pour parler aux jeunes qui restent très subjectives et voire comiques. On a des jeux, des plateaux de jeux interactifs sur les thématiques des addictions. On a des boîtes à questions. Des fois, on intervient avec des extraits de lecture. C'est vraiment des interventions un petit peu sur mesure en fonction du public, de l'équipe éducative qui va être présente sur l'établissement ou pas. Voilà.
Est-ce que vous avez... Donc l'AMPA existe depuis pas mal d'années maintenant. C'est né en fait d'une volonté politique ou est-ce que c'est une association loi 1901 qui s'est créée parce qu'elle a fait un diagnostic sur un territoire donné? En fait, c'est une association départementale mais qui a une instance
nationale. Qui dépend
nationale.
Du national, voilà, tout à fait. Je ne saurais dire le nombre exact d'années, mais elle n'est pas d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en fait, on dépend du siège national et donc on retrouve une ANPA dans tous les départements. Après, on a nos spécificités ou pas. Nous, en Lozère, on est un XAPA généraliste, donc qui prend en charge l'accompagnement de toutes les conduites addictives. Dans d'autres départements, comme par exemple dans le Gard, il peut y avoir un CARUD, donc spécialisé sur tout ce qui est toxicomanie. Et la Lozère a aussi la chance de bénéficier d'une consultation jeune consommateur, qui n'est pas le cas dans tous les départements. Et c'est vrai que les jeunes n'ont pas les mêmes consommations que nous, et c'est à prendre en compte dans l'accompagnement, l'écoute.
Alors en fait, ton association nationale, hein, elle va avoir bientôt 140 ans. Elle a passé ses 140 ans d'ailleurs. Elle est née en 1872. Voilà, elle n'était pas association encore, puisque c'est qu'en 1905 qu'elle devient association. Voilà, c'est sur ton site. Mais je te rassure, c'est pour beaucoup de structures, on ne sait pas forcément l'histoire. Non, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'en fait, c'est une association qui est très ancienne. Donc ça veut dire qu'on a, dans le domaine public, on a bien compris qu'il y avait un problème avec les addictions depuis très très longtemps, et qu'il fallait y remédier, que les pouvoirs publics avaient donné peut-être à des associations la capacité de faire de la prévention, puisque c'est le premier des soins, c'est déjà de prévenir avant de guérir, c'est de prévenir. Donc c'est un petit peu ça en fait, votre concept, c'est d'intervenir sur les territoires, faire prendre conscience aux gens dès le plus jeune âge que l'abus de certaines consommations ou de certains comportements amène à des addictions et à des complications de sa propre vie.
Tout à fait. Oui. C'est vrai que j'allais dire 150 ans, je la vois encore plus vieille. Et puis, il y a une évolution aussi parce que, donc on s'est toujours appelé ANPA, mais au départ, il y avait un seul A. Le A, c'était de l'Association nationale de prévention en alcoolologie. Et en fait, ils ont rajouté un deuxième A pour tout ce qui est conduite addictive. Parce qu'au fur et à mesure de l'évolution et des consommations de notre société, l'alcool, oui, c'était toujours d'actualité, mais il y avait aussi d'autres choses, dont les comportements alimentaires en excès ou à l'inverse, les jeux vidéo, les écrans qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, et etc.
Et vous travaillez du coup quand même beaucoup en réseau. Je sais que vous proposez notamment des formations. J'y avais participé avec des membres d'autres associations. Donc ça peut être, le planning familial ou des choses comme ça. La prévention par l'information en fait.
Oui.
Et vous vous rendez aussi, je crois, je ne sais pas si c'est vous directement le collectif ou si c'est un collectif avec lequel vous travaillez qui sera en fait sur les festivals, il me semble.
Alors jusqu'à l'année dernière, on avait aussi comme mission d'intervenir en milieu festif. Du coup, on a passé le relais à Auréal, qui est le réseau en addicto de Lozère, qui, avec sa vision de réseau, était tout à fait apte à tenir cette mission. Et pour nous consacrer un peu plus du coup sur les scolaires et sur les entreprises. Mais on reste partenaire bien sûr de ce collectif d'intervention en milieu festif.
D'accord. Oui. Alors j'ai une question. C'est donc on parle d'addictologie, d'addiction. Quelles sont au niveau national et puis au niveau peut-être plus local les addictions les plus importantes, enfin celles qu'on retrouve le plus fréquemment chez les adultes, puis chez les ados.
Alcool et cannabis.
Alcool et cannabis. Mmh. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une montée, parce qu'on entend dire ça souvent par les plus vieux d'ailleurs, voir des gens de plus de 50 ans qui disent ouais, « les jeunes aujourd'hui, ils picolent, etc. On les trouve dans la rue. » Est-ce qu'on a le sentiment, parce que ça c'est un sentiment qu'on a, qui est parfois partagé par les parents ou inquiets, hein, et qui se disent « est-ce que finalement on a est-ce qu'on a mesuré ça ? Est-ce qu'on sait si aujourd'hui on boit plus qu'avant chez les jeunes ou pas ? Est-ce qu'on a mesuré ça ?
Alors, je dirais pas plus, mais différemment.
D'accord.
C'est vrai que les jeunes ont tendance à être dans l'immédiateté et dans le
tout, binge
drinking. C'est-à-dire, c'est peut-être que le week-end, mais quand ils boivent, c'est de manière massive.
D'accord. Alors qu'avant, c'était toute la semaine, mais par petite dose.
Oui, ou des soirées qui commençaient peut-être plus tôt, finissaient plus tard.
Ou des apéros répétés,
autour d'un jeu de cartes. C'était pas une prise d'alcool pour de suite avoir les effets un petit peu
À part dans les fêtes votives où quand même il y avait beaucoup de dégâts, quoi.
Oui, mais est-ce qu'il y en a plus, moins? C'est difficile hein, à aller sonder.
Mais on n'a pas des chiffres. Oui, David.
Il y a une histoire de ça. Malheureusement, je ne savais pas qu'on allait parler de ça, mais il y a un livre dont j'ai entendu les auteurs s'exprimer. Je n'ai pas retenu le nom des auteurs. Ça s'appelle Le cru et la cuite. Donc, c'est toute une anthropologie de la consommation de l'alcool en France. Et on apprend des choses étonnantes. Alors, notamment qu'on boit beaucoup moins que ce qu'on croit par rapport aux époques antérieures. Mais on apprend que le gouvernement a dû faire de la publicité pour que les gens reconsomment de l'eau à certaines périodes. Il y a vraiment des choses.
Mais de toute façon, on le voit sur les chiffres de vente d'alcool, hein, que ça a beaucoup baissé en France. Depuis une dizaine d'années, on vend beaucoup moins de millions de litres de vin qu'avant. Avant, on
buvait. Peut-être qu'on consomme plus d'alcool fort aussi. Je ne sais pas.
Enfin, j'ai pas le sentiment hein, qu'on consomme plus. Je pense, je suis comme un petit peu
régalé.
Je pense qu'on consomme différemment. Mmh.
Ouais. Ouais, concernant les jeunes, moi j'ai encore lu là, une étude qui a été menée par monsieur Thierry Morel qui va être un invité sur le mois de janvier, et c'est vrai que lui il disait qu'il y a une différence entre la sensation et le ressenti qu'on a. On a l'impression que nos jeunes boivent beaucoup, fument beaucoup, et forcément pas plus qu'avant, mais par contre c'est vrai qu'ils consomment de manière différente et de manière massive et violente, entre guillemets.
Ouais.
C'est vraiment c'est de l'ivresse instantanée, il faut que ça monte de suite. Mais tout en relativisant aussi, ce ne sont pas tous les jeunes. Ça reste bien sûr une minorité.
C'est ça, hein. C'est ça.
Il y a une majorité de jeunes qui vont bien,
hein,
bien
sûr. Pour tout d'ailleurs, il faut faire attention à ce qui est dit. Et il faut essayer aussi d'avoir un peu des chiffres et des données pour éviter aussi de mettre tout le monde dans le même sac, comme tu le dis.
Et du coup, est-ce que... Bon, peut-être pas toi personnellement, mais est-ce qu'il y a une...
Est-ce que tu bois, toi?
Oui, c'était pas ma question.
En étant
si tu veux répondre...
Oui, bien sûr.
Des fois. Non, mais bois raisonnablement. Je parle, est-ce que tu prends une cuite, Magali?
Toujours raisonnablement.
Non, du coup, moi, je voulais poser une question un peu plus
sérieuse. Et toi, tu bois un peu?
De l'eau, beaucoup.
D'accord.
Beaucoup, beaucoup.
Tu fais beaucoup de sport, c'est une grande sportive.
Julien. Oui. Oui, pourquoi peut-être du coup qu'est-ce qui change en fait par rapport aux anciennes générations qui buvaient donc différemment, on l'a dit. Pourquoi maintenant ils veulent boire beaucoup vous en savez quelque chose ou il n'y a pas de piste
hein? Il y a des phénomènes sociaux, c'est ça, d'insécurité, de tempérament, de choses comme ça, non? La société change,
Oui, la société va peut-être plus vite. Alors,
quand on leur parle des portables, qui a un portable dans la classe, depuis quel âge? Souvent, on leur dit, en fait, moi, je l'ai eu. C'est le stéréotype, mais quand papa et maman ont divorcé, maman voulait pas que j'aie un portable, papa me l'a mis entre les mains. Ils l'ont pas spécialement demandé, comme les jouets de Noël. Ils ont des fois, ils me disent, on n'a pas le temps de demander ni vraiment de désirer, parce que de toute façon. Ça arrive de tous les côtés.
C'est ce que disent les jeunes aujourd'hui.
C'est ce que nous disent les jeunes. Ouais. Moi, j'ai un petit carnet de bord lors de mes interventions. Et souvent, c'est ça. C'est qu'on leur met plein de choses entre les mains et ils font avec.
Ouais. Il n'y a pas le désir, peut-être, qu'à une certaine époque, les enfants avaient ou réclamaient « Ah, je souhaiterais bien avoir ce jeu » ou « J'aimerais bien avoir ça ».
Moi, je leur pose tout le temps la question « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez? Si vous avez un message à passer, que ce soit au niveau de la municipalité, des gens comme moi extérieurs, de vos parents, ils ont juste envie d'être tranquilles, en fait. »
Oui.
Oui, mais ça, c'est le propre des ados, quoi. Souvent,
on
aimerait qu'ils soient adultes avant l'âge ou qu'ils réfléchissent ou vivent leurs adolescences. Après, il y a aussi des ados qui sont très, 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 très engagés. Là aussi, il ne faut pas faire d'amalgame.
Tout à fait. Hein. Mais bon, c'est pas qu'ils aiment pas les adultes, ils ont envie d'être entre eux.
Vivre leur adolescence.
Vivre leur adolescence.
C'est une autre.
À leur rythme.
Ouais, c'est ça. C'est un autre temps.
Puis, tout de même, c'est quand même des choses très différentes de parler de l'addiction au cannabis, à l'alcool, et de celle du virtuel, il me semble. Parce que quand même, quand on parle d'addiction, il me semble qu'aujourd'hui, tout le monde est addict à des. On est en train de réaliser vraiment très lentement que. Que des outils qu'on utilise tous les jours, comme Google, comme plein d'outils informatiques virtuels comme ça, sont en fait, se retournent contre nous, on produit des données qui ne nous appartiennent plus. Enfin, ça, c'est des choses, j'ai envie de dire, c'est absolument toute la population qui est addicte à ça. C'est pas exactement la même chose que les soupapes que peuvent être l'alcool ou la consommation de cannabis dans une société.
Oui, comment définir en gros l'addicto?
Alors, en fait, l'addiction, c'est ça, c'est que souvent, c'est un mot qui est un petit peu à la mode. Et l'addiction, c'est quand, malgré qu'on ait conscience que notre comportement ou notre consommation a des effets négatifs sur notre physique, psychologique ou autre, on se retrouve dans l'incapacité d'arrêter. C'est ça. Alors après, c'est pour ça qu'il faut faire la différence, surtout en ce qui concerne les écrans. C'est qu'il y en a qui, bon, ils passent, deux heures tous les soirs sur un écran, mais il y en a, ils y passent des nuits. Du coup, ça a une influence sur le sommeil, sur l'alimentation, sur la sociabilisation, sur le cursus scolaire s'ils sont scolarisés ou au travail.
Donc en gros, c'est un changement de comportement lié à une forte consommation de quelque chose.
C'est ça, et puis récurrente et vraiment dans l'impossibilité d'arrêter. C'est-à-dire que, voilà, on préfère jouer passer, que manger, jouer que sortir, jouer que manger, dormir, se laver. Voilà. Tout le monde n'est pas addict. C'est pas parce qu'on adore pratiquer une activité ou jouer... passer du temps derrière la toile qu'on est forcément aussi addict.
Ouais, en fait, c'est une histoire de frontière. Il y a un discours médical qui s'instaure à un moment. C'est une pathologie, quoi.
Ben, c'est tout, quand on dit que tout est une question d'équilibre, c'est au moment où de la passion, voilà, on bascule du côté de la dépendance, qui est subtile et donc souvent on s'en aperçoit pas. Hein. C'est qu'une fois qu'on a.
Est-ce qu'on peut être addict au travail?
Oui.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
Toi, t'es bien placé pour le savoir, je crois.
Non, mais c'est une question. C'est voilà, vrai alors que c'est souvent, un petit peu comme parce toi. Que, parce que le travail, c'est une valeur dans notre société. Donc, on se dit, le mec qui bosse beaucoup aujourd'hui, c'est normal. Ben, ça peut ne pas l'être, quoi.
Tout
c'est ce
à
que
fait.
Je veux dire. C'est-à-dire que, heureusement qu'il y a le droit du travail pour dire à un moment donné, stop, il y a une limite du temps horaire du travail parce qu'au-delà, c'est du surmenage ou. Voilà.
Trois petits points.
Non mais c'est pour rappeler aussi ça parce qu'on est dans le débat de la durée hebdomadaire du travail aujourd'hui, des limites de travail, de la flexibilité, tout ça, mais s'il existe des contrats de travail, c'est aussi parce qu'on a mesuré qu'en fait le travail c'était ça se limitait dans le temps et que le corps il peut pas absorber forcément des semaines et des semaines sans arrêt de travail, quoi, qu'il faut respirer, qu'il faut discuter, jouer, peut-être avoir d'autres addictions.
Voilà, quand on parle par exemple de stimulants comme la cocaïne ou le travail, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, on est comme des batteries, on tire dessus, jusqu'au jour où notre corps se met en stand-by. Donc ça peut être.
Un burn-out et des choses comme ça.
C'est ça.
C'est ça.
Des malaises, des. Un stand-by.
Ok. Donc on vous a invité aussi parce que jeudi, vous organisez un théâtre forum interactif sur les conduites addictives. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce théâtre forum interactif?
Voilà, donc ce théâtre forum interactif, c'est une action de prévention qu'on propose en dehors des établissements scolaires à l'ensemble des jeunes, mais aussi encadrants ou parents qui souhaiteraient y participer. Et le but, c'est de proposer donc une action de prévention ludique, participative, où les jeunes auront l'occasion de parler sans tabou, librement, de plusieurs thèmes concernant les conduites addictives. Donc, ça sera sous forme de 4 petits sketchs qui donneront l'occasion d'échanger sur les violences routières. Donc, violences routières, c'est par exemple le portable et le volant qui sont souvent incompatibles.
Mmh. Les violences routières portables.
Oui, en fait, violences routières, c'était par rapport à l'utilisation, que ce soit des smartphones ou du GPS en conduisant, mais aussi suite à une prise d'alcool ou de cannabis.
D'accord.
Voilà. Ensuite, l'alcool, le cannabis et les dangers du virtuel.
D'accord. Le thème du cannabis, on va en reparler. On a récolté des témoignages de jeunes Lozariens. En fait, c'est des témoignages qui ont été récupérés donc dans le cadre d'un projet que vous menez en partenariat d'ailleurs avec la Ligue de l'enseignement.
Oui.
Donc voilà, ils vont nous dire un peu ce que eux pensent du cannabis et les conditions d'utilisation.
Alors, on écoute ça tout de suite.
C'est parti de la vie des jeunes un peu maintenant. C'est un produit on peut considérer ça comme la drogue, mais je trouve que chez les jeunes, c'est plutôt considéré comme une plante qui peut faire un peu plus que se droguer, genre se mettre bien, être tranquille quoi, être posé.
Que c'est une drogue qui nous, quand on la consomme, on se sent un peu plus léger, ça nous fait un peu oublier nos problèmes des fois, ou on se sent mieux.
Quand on fume du cannabis, premièrement, on commence à être un peu pas bien, on peut partir en bad, il y a plein de trucs, on peut partir en trip. Le seul truc qui est dommage, c'est la pâteuse, j'aime pas ça et ça donne faim, donc, et quand il n'y a pas à manger, c'est chiant.
Mais déjà, vous pouvez en consommer, mais faut pas en abuser, quoi. C'est genre, Moi, j'en consomme que par soirée, donc en soirée, c'est tout.
Il faut consommer, mais sans abus, parce que après, on peut en devenir indépendant et puis on peut. Je sais pas, ça peut nous changer, ça peut nous rendre malade, on peut en mourir peut-être si on boit trop. Et enfin, c'est bien par petite dose pour s'amuser, c'est tout.
Moi, je trouve que. Ouais, c'est sûrement fait pour qu'on puisse les utiliser, mais je trouve que en soirée et tout c'est plutôt pas mal. Mais voilà quoi, faut pas abuser parce que moi je croise des gens et quand je vais en Technival ou quoi, bah ils sont assez accros aux drogues dures plus particulièrement là-bas.
Magali, est-ce que
ouais, les témoignages sont
surprenants,
surprenants hein, parce que on dirait des pros, quoi. Façon de parler, mais c'est vrai qu'ils ont un jargon, ils ont une maîtrise quand même du sujet, quoi. Non, Magali ?
Oui, alors c'est vrai que moi, j'en parle librement tous les jours avec eux, donc
oui,
moi, ça
choquée,
paraît
hein.
Un discours... Ouais.
Voilà. Enfin, c'est pas d'être choqué, d'ailleurs, c'est voir que cette consommation est, entre guillemets, un peu maîtrisée, quoi. Ils sont pas dupes, quand même.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est que, bon, ils en parlent, mais quand même, ils ont un esprit critique, parce que quand on leur laisse la parole... et qu'ils ont passé ben, le cap de dire « oui, je fume » ou « oui, j'ai essayé », on s'aperçoit que quand même, ils ont un esprit critique, un regard critique, et qu'ils regardent à côté d'eux un petit peu jusqu'où il faut aller ou pas. Ils prennent ben, voilà, les festivaliers comme cobayes, ils évaluent. Oui. Et bon, ils font leur expérience.
David, ça te surprend c'est...
Non, pas du tout, non. Non, mais je pense que ben, ce dont parlait Nicolas tout à l'heure, il parlait d'addiction au travail. Il y a beaucoup de pression quand même dans une société comme la nôtre. Mm-hmm. Du coup, c'est dans les médias, c'est la crise, il n'y a pas d'emploi. Les gens aussi, peut-être les jeunes y compris, surtout eux, ont besoin de relâcher la pression de temps en temps.
Mm-hmm. On va peut-être écouter du coup un second extrait qui donc là parle des addictions à tout ce qui est un petit peu multimédia, on va dire.
On l'utilise tous les jours, c'est le truc qu'on cherche partout, c'est le premier truc qu'on veut. On peut aller sur Facebook, on peut discuter avec nos amis, et voilà, c'est tout.
C'est un peu comme le cannabis que je disais tout à l'heure, on devient facilement accro à Facebook, tout ça, c'est les réseaux sociaux et tout. On peut plus s'en passer, on est obligé d'appeler nos potes, la famille, aller sur les réseaux sociaux, faire plein de choses, je sais pas, même tricher sur un cours, ça peut être utile aussi, et sinon, bah voilà.
Dès que je rentre chez moi, enfin, déjà rien que dans le train, je regarde un film sur mon ordinateur. Quand j'arrive chez moi, je joue à la Play, je regarde la télé. Même à l'internat, le soir, je vais sur mon téléphone, j'écoute de la musique. Enfin, on va dire qu'on peut, c'est indispensable.
T'en as pas besoin si t'es avec tes potes, t'es tranquille, t'es avec ta famille, tranquille, y a pas besoin de télé, de téléphone, de toutes ces conneries.
Des fois, quand on se dit on va s'amuser, tout ça, on se dit ouais, je vais prendre des photos, tout ça, donc ça devient un peu. En fait, le portable, ça peut nous servir à tout, parce qu'on prend des photos avec, on fait tout avec les portables maintenant, on peut tout faire. Bah, sur Snapchat, Vine, Facebook, Twitter, Instagram. Il y a tout ça, c'est des trucs où on peut publier une photo, une vidéo, puis ça laisse une trace de nous sur Internet. Après, n'importe quelle personne peut la télécharger. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met.
Je trouve ça assez intéressant, ce dernier témoignage-là, où il dit que ça laisse une trace de nous. C'est vraiment c'est la société quoi, qui pousse en fait vraiment à cette consommation. Ils veulent exister, et donc pour exister, ils ont toujours ce téléphone du coup qui leur sert à tout, à prendre des photos, à écouter de la musique, à partager en fait. Moi personnellement, j'ai l'impression qu'ils existent pas, ou ils existent pas comme ils le souhaiteraient, en tout cas s'ils ont pas ça quoi.
C'est vrai que quand on a discuté un peu plus avec ces jeunes, ils nous disaient qu'en fait c'est plus qu'un objet, c'est une présence. C'est une présence quand ils attendent le bus, dans le train, c'est un moyen de communiquer, d'enregistrer, de
partager. C'est occupationnel aussi quand même. Hein. Est-ce qu'on n'est pas tombé trop...
C'est rassurant pour eux, ils disent.
Ben, c'est-à-dire c'est comme la cigarette avant qu'on roulait, même si on ne la fumait pas, de l'avoir entre les mains. C'est d'avoir quelque chose qui matérialise le monde dans lequel on vit, quoi, qui fait qu'on se raccroche à quelque chose de matériel.
Tout à fait.
C'est une société ultra-matérielle et de l'image, donc c'est normal que nos enfants baignent là-dedans. Quoi.
Et c'est lié à la société, parce que dans ce petit reportage, il a dit oui, mais bon, quand on est avec nos parents et notre famille, on n'en a pas besoin.
Oui, oui, c'est ça, tout à fait.
Ils le disent, ouais. Hein, très bien. Mais c'est sûr
qu'on n'en a pas besoin, mais on est quand même dessus. Quoi. C'est aux parents de dire un stop. Mmh. Par exemple, moi j'ai instauré chez moi un fonctionnement qui est qu'au moment des repas et à certains moments, on pose les portables dans un endroit pour ne pas être perturbé. Parce que ce qui est gênant, ce n'est pas le fait d'avoir un portable en tant que tel, c'est le fait qu'il intervienne dans une discussion ou dans un moment familial. Et donc, il fait des ruptures comme ça de ces moments de partage. Et on ne peut pas être sur deux choses à la fois. Donc, expliquer aux enfants qu'il faut faire bien une chose à la fois et pas plein de choses à la fois, que ça ne marche pas. Le cerveau, il ne peut pas faire plein de choses à la fois. Et donc, de se contraindre à ça, mais ça, c'est un rôle éducatif. Est-ce que vous en parlez à l'AMPA de ça, aux jeunes, ou pas?
Oui. On essaye de leur faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est cet objet, à quoi il sert, les points positifs, les points négatifs. Et c'est, sur le portable, c'est ce qu'on dit. La nuit, on n'a pas besoin d'un portable. La nuit, c'est fait pour dormir. On peut très bien laisser le portable déjà à l'extérieur de la chambre.
Ouais.
Pendant les repas, d'ailleurs, nous, quand on commence les interventions, on leur demande d'enlever le portable de la poche symboliquement.
Ouais.
On est ensemble, hop, on se dégage de nos portables respectifs et on passe un moment ensemble.
Est-ce que tu as un portable, David?
Oui, bien sûr. Comme tout le monde. On peut pas s'en passer aujourd'hui. Mais on peut se passer difficilement justement de tout ça aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que même professionnellement, je sais pas qui aujourd'hui peut se passer d'un... Moi, j'ai toujours pas de compte Facebook, par exemple, mais je connais de moins en moins d'artistes qui n'ont pas de compte Facebook. Or, Facebook, si vous lisez un petit peu, c'est le web qui se privatise et la moitié des choses que vous mettez là-dessus ne vous appartient plus, mais appartient également à Facebook. Donc en fait, c'est vraiment des débats...
De société,
qui sont déjà actuels.
Et de choix de société. Je pense que sur les jeunes aujourd'hui, c'est de leur faire... Enfin, la plus grande peut-être responsabilité qu'on a en tant qu'adulte, c'est de leur faire comprendre ce que ça induit, en fait, d'avoir un portable, de mettre des images, de télécharger de la musique. C'est ce que ça induit sur notre société, mais aussi sur leur futur comportement, quoi. C'est ça, c'est d'être en possession de choix, de libre arbitre. Et souvent, je trouve qu'on ne véhicule pas assez ça en tant qu'adulte, etc. On ne leur fait pas comprendre qu'il y aura un impact et que dans leur choix plus tard, il y a des choses qu'ils ne pourront pas gérer parce qu'ils n'ont pas fait le choix, parce qu'on ne leur a pas dit avant.
Tout à fait.
Moi, j'aimerais pas que nos enfants, par exemple, nous reprochent, vous auriez dû nous dire ou pas nous acheter de portable. Ce serait une sacrée claque quand même de s'entendre dire ça par ces enfants qui, à l'âge de 21 ans ou 22 ans, ne trouveront pas de travail parce qu'ils ont fait une soirée un peu arrosée et que l'employeur aura retrouvé des photos un peu space, on va dire ça comme ça, sur Facebook en disant, bah, tu vois, lui, il n'est pas très sérieux, ce gamin-là, voilà ce qu'il a fait. Bon, mais il l'a fait à 14, 15, 16, 17 ans. Donc, est-ce qu'on est... C'est pour ça qu'il n'y a pas la majorité. Mais aujourd'hui, on est en train de redonner des outils qui nécessiteraient une certaine majorité, quoi.
C'est ça, on leur a donné des appareils entre les mains sans le mode d'emploi, ni de fonctionnement. Ils ne savent pas où c'est que transitent les images, où c'est qu'elles sont stockées. Ils ne savent pas trop. Ils savent qu'est-ce que peut faire un portable, un compte Facebook, mais alors après, comment ça fonctionne, est-ce que ça peut ressortir
nuisance, hein. Par exemple, filmer un pote qui est dans une situation un peu délicate parce que ça va faire marrer tout le monde. Ouais, mais le pote, ça ne le fait pas marrer, quoi. Et puis, que ça peut avoir des conséquences, même pénales. Hein.
Tout à fait.
Et vous, parce que c'est vrai que du coup, ça fait aussi partie du rôle des parents. C'est ce que tu disais, Nicolas. Ouais. Est-ce que, parce que là, donc, vous faites de la prévention auprès des jeunes. Est-ce que les parents, est-ce que vous invitez, je sais pas, parfois les parents à venir au débat? Bon, là, je vois que je dis donc les parents sont invités, les personnes qui sont, qui les adultes en fait, qui sont toujours en contact avec avec les jeunes, donc les profs, etc., sont invités, mais est-ce que vous proposez directement des formations
Oui, c'est vrai que j'ai parlé des interventions auprès des scolaires et des entreprises, mais pas que. Au même titre qu'on propose ce jeudi un théâtre forum pour les jeunes, donc sous forme de spectacle, on va dire. On propose aussi plusieurs fois dans l'année des échanges, débats, des interventions auprès des parents. Et justement, là, l'idée, les petits... reportage qu'on vient d'écouter, enfin les petits extraits. L'idée, c'est pour cette année de réaliser, grâce à la Folle 48, un petit court-métrage audio qu'on présentera aux parents et qui sera suivi d'une conférence débat animée par des professionnels, qu'ils soient sociologues, historiens, mais également les ressources locales, donc l'équipe, plusieurs professionnels de l'équipe de l'ANPA. Médecins, psychologues, voilà.
Ok. Bon.
Là, vous avez parlé d'un spectacle. C'est fait par qui ?
Donc, c'est une compagnie de théâtre qui s'est spécialisée donc dans les thématiques d'addiction, mais pas que. Elle traite tout ce qui est question de société, la discrimination, la sexualité. Voilà, c'est une compagnie de professionnels qui s'est spécialisée sur les thématiques de société.
D'accord, donc il y aura deux représentations d'une heure trente, c'est ça, jeudi 11 décembre, voilà. À 10h et à 14h, à la salle Urbain 5 à Mende. L'entrée est payante ?
Non, elle est gratuite.
D'accord, bon, mais merci beaucoup Magali.
Merci.
On va écouter peut-être juste avant la pause musicale donc le dernier reportage donc, qui est ce que les jeunes ont à dire aux adultes et à leurs parents en particulier voilà. Sur le sujet du cannabis.
Mesdames et messieurs les parents, les éducateurs, les enseignants, les sociologues, c'est, écoutez bien ce message.
Voilà, et on enchaînera avec la pause musicale.
J'aimerais qu'on puisse au moins genre faire je sais pas genre un coin fumeur mais fumeur de cannabis et un coin fumeur de ça, mais je sais que c'est pas légal, mais voilà quoi, j'aimerais bien. Et puis vu que ça sera peut-être bientôt dépénalisé comme disait ma mère là, que je sais plus, je crois que c'était quelqu'un qui voulait faire dépénaliser le cannabis, bah tant mieux hein, si on peut le fumer quelque part dans un endroit plus sécurisé que dehors dans la rue et se faire arrêter pour rien.
Moi, ce que j'ai à faire passer, c'est que c'est pas, enfin, qu'il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur quand on consomme ces drogues-là. Enfin, il faut nous prévenir qu'il faut faire avec modération, mais il faut pas avoir une peur parce que on, à partir d'un certain âge, les générations, on arrive à devenir assez matures pour, voilà, pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Après, la drogue, c'est sûr, c'est pas un truc très bien. J'aimerais pas que mes enfants en consomment. Mais s'ils en consomment, voilà, je préférerais que doucement. C'est dangereux quand même.
Si j'ai un message à faire passer, c'est bien, surtout à mes parents, quoi. Si je consomme, c'est pas contre eux ou quoi. Parce que souvent, ma mère, elle me dit, ouais, mais pense un peu à moi dès que tu fumes une latte ou quoi. Sois un peu plus mature dans ta tête et tout. Mais moi, je trouve que rien qu'après les cours et tout, comme disait, mon ami, qu'après les cours, ça fait toujours du bien de fumer un joint ou quoi, pour se poser, pour être tranquille et pour nous calmer surtout, parce qu'après, si, moi je sais que si on fume pas, on va dans la chambre et on se bat après avec, avec mon ami, donc du coup, voilà.
Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
And that's what we're going to do.
Away, baby, let's go.
We're gonna have a good time. We're gonna have a party.
You want to do?
I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey!
We want to be free to do what we want to do.
48 FM Le Mag.
Nous sommes de retour dans ce 87e Mag de 48 FM, toujours en direct. Donc après avoir parlé prévention avec, avec toi Magali, on va parler art contemporain avec David. Donc, bonjour David.
Bonjour.
Donc est-ce que tu peux commencer par, par te présenter, ton parcours, ce que tu fais ?
Oui, alors simplement j'ai étudié aux Beaux-Arts, dans plusieurs écoles des Beaux-Arts d'ailleurs. D'abord en Bretagne, dont je suis natif, et puis un petit peu au Canada, et j'ai repris les Beaux-Arts plus tard, après une petite pause dans la vie active, aux Beaux-Arts de Nîmes, voilà, où j'ai rencontré ma compagne.
Est-ce que l'art est une addiction ?
Ah bah oui, ça c'est certain.
Je confirme.
C'est-à-dire on pense art, on mange art.
Oui, complètement. On en rêve, on se réveille la nuit en y pensant, oui. Oui, là ça c'est certain par contre, oui. C'est pathologique, il n'y a aucun doute.
Après,
c'est thérapeutique aussi pour certains.
Oui, mais non, mais bien sûr.
C'était thérapeutique pour moi.
Je m'en plains pas. J'essaie pas de trouver de solution. Ma compagne, elle est également artiste. On s'est installé en Lozère il y a 2 ans. Voilà.
D'accord. Et tu pratiques quoi comme art, comme technique ou...
Alors, j'ai pas de technique, j'ai pas de savoir-faire particulier. Ça n'a rien à voir avec une espèce de vision du sculpteur qui maîtriserait le marbre. On est très très loin de ça. J'utilise plusieurs outils selon les thématiques sur lesquelles je travaille. C'est-à-dire, j'ai des leitmotifs, des choses sur lesquelles j'aime bien revenir. Il peut y avoir il peut y avoir la question du corps, il peut y avoir la question.
Mais tu es beaucoup sur quand même sur le traitement de l'image.
Ça tourne beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que c'est parti d'une pratique l'art de visuel, la photographie, qui s'est ensuite déclinée en vidéo puis en sculpture en fait. Donc je tourne beaucoup autour de la question de l'image, des temps de l'image, de l'éphémère, des transitions dans les matériaux et. Aujourd'hui, j'essaie de parler d'image, mais sans image. Enfin, sans support tableau ou sans photographie. Voilà. En fait, je pense que tout simplement, c'était dans les chambres noires qu'on avait encore, il n'y a pas si longtemps, qui existent encore par-ci, par-là, mais où on voyait ces images apparaître. C'était plutôt ça, l'apparition de l'image dans le bac qui m'intéressait plutôt que l'image fixée définitivement sur un support. Donc j'essaie de continuer à parler de ça un petit peu.
D'accord. Ouais. Comment on arrive à un parcours comme ça, étant jeune, je parle. Parce que là, on était sur la jeunesse. Comment on devient un artiste ou comment progressivement on prend conscience que c'est l'univers dans lequel on veut aller. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on croise nous ici et qui aimeraient être artistes ou qui ont des velléités à se rapprocher de l'art, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on travaille, ou est-ce que ça vient d'un coup comme ça à 25, 30 ans ?
Je pense que ça dépend des personnes, ça dépend de la culture dans laquelle vous grandissez. Il y a des jeunes qui grandissent dans des bibliothèques magnifiques avec une culture toujours omniprésente autour d'eux. Moi, c'était pas le cas. J'avais des parents cultivés, mais qui n'étaient pas du tout orientés vers ça. Au départ, je voulais faire de la BD, des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec les questions que je me pose aujourd'hui. On grandit là-dedans. Je pense qu'on est créatif. Et puis après, ça dépend des personnes.
C'est plus un tempérament, c'est ça ?
Oui, parce qu'il faut être têtu, je pense, quand même, pour vouloir placer ça au cœur de sa vie. Donc il y a une histoire de tempérament, il faut vraiment en vouloir.
Donc ça veut dire qu'on peut être artiste sans être cultivé ?
Aujourd'hui, je pense pas. Enfin, je pense qu'on peut être créatif sans être cultivé. Être artiste, je pense qu'aujourd'hui, ça comprend quand même vivre dans ce monde. On parlait des outils de communication présents partout. Je pense je connais des artistes j'ai rencontré des artistes qui travaillaient d'ailleurs dans de grands centres d'art et qui n'avaient jamais montré ce qu'ils faisaient. Il y a un côté artiste maudit comme ça. Que je trouvais intéressant. D'ailleurs, je me disais, alors, comment on fait ça ? Parce que je pense qu'il y a une part de générosité aussi. On ne fait pas les choses que pour soi. On a besoin de les faire, mais si on ne passe pas cette étape du partage avec le regard de l'autre, il y a quelque chose qu'on ne joue jamais. Quoi.
De la confrontation ?
Oui, tout à fait. Ouais. On fait ça pour ça. Mmh. Enfin, je pense. Hein, je pense que tous les artistes ont envie de se confronter au regard de l'autre.
Oui. D'ailleurs, on va peut-être passer un premier son. Donc j'ai été interrogée en centre-ville de Mende, les gens, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de l'art contemporain, qu'est-ce que ça leur évoquait, est-ce que c'était quelque chose qui les attirait ou pas. Donc on va écouter ce qu'ils nous racontent et puis on en discute après.
J'aime beaucoup l'art contemporain, enfin en général, j'aime beaucoup. Après il y a des trucs qui sont pas toujours très accessibles, mais c'est l'occasion de découvrir de nouvelles tendances artistiques qui changent un peu de l'ordinaire. Après, il ne faut pas que ce soit trop perché parce que ça devient un peu difficile à comprendre et à voir. Mais dans l'ensemble, ouais, j'aime bien tout ce qui est art contemporain.
Art contemporain, pour moi, c'est de la créativité. J'adore l'art contemporain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un art qui me fait réfléchir et par rapport à mon temps aujourd'hui. Quand on va voir une expo d'art qui a sur l'histoire ou de vieux tableaux ou de vieilles choses, on est toujours on va toujours chercher la signification, d'où ça vient. Alors que quand on va voir une expo d'art contemporain, on est un petit peu face à son temps, face à soi-même, et c'est ça qui m'intéresse.
Très spécial, je suis ouvert à l'art. L'art contemporain, pour moi, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Pour moi, j'ai l'impression que d'un côté, c'est un peu du foutage de gueule. Puis de l'autre, je trouve des choses super sympas, super imaginatives. Peut-être que je suis un peu difficile.
Je n'y comprends rien.
Ça peut m'attirer. Après, ça dépend qu'est-ce que c'est. Dans l'art contemporain, il y a beaucoup de choses. Donc, oui, carrément. Carrément, ça peut être plaisant. Il y a des choses originales, des mouvements de pensée. Il y a plein de trucs.
Alors oui, alors c'est forcément c'est quelque chose qui m'attire dans le sens que j'ai l'impression à chaque fois de découvrir. J'aime me laisser emporter parce que ça va dégager chez moi en termes d'émotion. Voilà, donc s'il y a une expo effectivement d'art contemporain, mon premier réflexe c'est d'aller découvrir.
Alors, c'est...
Alors, ça amène des réflexions, non? À ça?
Non, ça me semble être des attitudes normales. Enfin, normal. Enfin, c'est-à-dire que art contemporain, c'est aussi large que cinéma contemporain. Donc, je pense que ces personnes qui ont bien compris que voilà, c'était une très grande catégorie dans laquelle il y avait énormément de
plateformes.
Voilà, tout à fait.
C'est ça.
Moi, j'avoue que j'étais un peu surprise. Ben, j'en discutais avec David avant l'émission. En allant faire ces sons, je m'attendais vraiment à ce que beaucoup de personnes me répondent, comme certains, qu'ils n'y comprenaient rien, que c'était nul. Parce que c'est vrai que, dans mon entourage en tout cas, beaucoup de personnes considèrent que si c'est pas de l'art classique, on va dire, de la peinture figurative, pas forcément figuratif, parce que là, pas forcément figuratif, mais quelque chose de plus classique, qui n'a pas un travail. Comment dire ? Ouais, qui s'est vraiment inscrit dans l'histoire, c'est pas de l'art, quoi.
Qui c'est par rapport à la valeur des objets aussi. Quand on montre un Picasso, on dit ça, c'est un Picasso, wow, c'est beau un Picasso.
Sachant qu'on n'a pas toujours dit c'est un Picasso, quoi.
Comment ?
Sachant qu'on n'a pas toujours dit c'est un Picasso, quoi.
Non, mais quand on va dans un musée ou dans une expo, voilà. On est attiré aussi par l'artiste plus que par son œuvre.
Picasso, c'est le bon exemple, mais je pense que c'est simplement que... Enfin, moi, je travaille un petit peu dans des écoles. Je donne des petits cours de dessin pendant le périscolaire, des choses comme ça. Et je vois bien que dans les écoles, il y a déjà des choses qui se passent qu'on n'avait pas, nous. C'est-à-dire que voilà, les enfants, aujourd'hui, ils sont en CM1, CM2, ils ont déjà vu des œuvres d'art contemporain. Ils vont dans des musées, ils font des fiches... sur une œuvre d'art minimaliste, sur un objet du musée du design à Saint-Étienne. Enfin voilà, moi je félicite les instituteurs et les professeurs. Tout simplement, ces réactions, c'est j'y comprends rien.
Voilà, qui interviennent, qui font un gros, gros boulot aujourd'hui dans les écoles. T'as entièrement raison de le dire. C'est vrai qu'à une époque, nous on décidait, on nous mettait une bouteille ou une poire, et on décide la bouteille ou la poire. Aujourd'hui, il y a tout un travail d'approche, de lecture en fait de l'œuvre, c'est ça.
De l'interprétation. Et puis voilà, une vraie histoire, c'est-à-dire que ça s'arrêtait avant effectivement à Picasso, aux impressionnistes, et puis au-delà, les gens en fait finalement, quand on a eu cette éducation-là, les objets qu'on voit sont complètement extraterrestres, quoi, complètement déconnectés de ce que nous on maîtrise socialement.
C'est la médiation qui est peut-être un peu meilleure, du coup. Et...
Alors, il y a eu deux aspects. C'est vrai qu'il y a eu aussi des formations de médiation des œuvres. Oui. Hein, depuis les années 80, beaucoup d'établissements scolaires, oui, des universités ont mis ça en œuvre. Et puis, il y a aussi le plan qu'avait mis Langtasca en rapprochant la culture et le ministère de l'Éducation, en faisant un plan sur l'éducation artistique. C'est-à-dire qu'on a introduit la notion d'éducation à l'art, qui était essentielle, donc la connaissance des œuvres, il y avait un socle commun, tout ça. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé, parce que ça fait maintenant plus de 20 ans, presque 30 ans, hein, que c'est en œuvre. Et donc il y a les premiers résultats de ces approches-là qu'on entend dans les petits reportages que tu as fait, Julien, et qui témoignent un petit peu de ça, de cette sensibilité un peu différente sur les œuvres.
Mmh. Oui, et puis je pense que les gens, en tout cas ceux qui étaient interrogés, font preuve de curiosité. C'est simplement aussi, on compris qu'il n'y avait plus un seul langage dans l'art, qu'il y en avait plusieurs, et qu'effectivement, ensuite, c'est là ce que vous venez de dire, c'est une question de médiation et de prise en relais par la parole.
Justement, on va peut-être écouter, je leur ai demandé donc s'ils pensaient que la médiation culturelle pour l'art contemporain était suffisante et bien faite, quoi. Donc on va écouter leur réaction.
Oui, en règle générale, même si je pense qu'à Mende, il n'y a pas énormément d'informations, notamment autour de l'art contemporain. Il y a pas mal d'événements et pas mal d'expos autour de ça, et parfois on n'est pas très informé ou pas énormément d'explications, mais je pense que c'est plutôt sympa dans l'ensemble.
C'est compliqué, c'est très compliqué. Je pourrais pas me prononcer sur cet aspect-là. C'est très difficile de faire de la médiation sur l'art contemporain parce qu'il est souvent décrié, il est difficile à juger. On n'a pas l'histoire pour nous donner une légitimité. Et c'est souvent une histoire de passion où, quand une personne a vraiment une grosse volonté, un gros coup de cœur sur quelque chose qu'il peut amener de la médiation autour de l'art contemporain.
Au même titre que l'autre, oui. Moi, ça me, pas plus, pas moins. C'est vrai que ça manque. Je suis ouvert à la culture, mais pas plus.
Ah bah, c'est-à-dire que c'est devenu tellement compliqué que justement, c'est même en expliquant, ça devient très compliqué, quoi.
Mais moi, j'aimerais davantage, effectivement, qu'il puisse y avoir dans des expos des gens qui soient là pour expliquer. C'est ce qui me manque. Voilà, si je ne fais pas moi-même la démarche en amont de me renseigner ou bien sûr après.
Ça dépend comment c'est fait. C'est toujours pareil. Ça dépend si c'est directif ou si ça laisse la place à imaginer aussi ce qu'on a envie d'y mettre derrière. Je crois que c'est ça aussi l'art contemporain. Ça permet de chacun y mettre le sens qu'on veut.
Voilà, moi je rebondis sur ce qu'elle vient de dire.
C'est, il y a quand même. Rebondis pas trop quand même.
Il y a quand même une dimension qu'on retrouve peut-être moins dans les autres types d'art, une dimension très personnelle. C'est-à-dire que l'artiste exprime ce qu'il souhaite, mais il y a aussi une dimension. Par exemple, voilà.
Personnel, tu veux dire, c'est ça?
Oui, mais du spectateur aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, toi, j'étais voir une exposition d'art contemporain. J'étais avec de la famille et puis je commence à m'improviser guide. Et je raconte absolument n'importe quoi. Ça se tenait, mais c'était n'importe quoi. Et je me suis retrouvée 5 œuvres plus tard avec une dizaine de personnes qui écoutaient ce que j'étais en train de raconter et qui acquiesçaient. Donc je pense que il y a cette dimension qui est du coup peut-être un l'œuvre compliquée à saisir, dans le sens où on peut vraiment partir dans tous les sens.
C'est une appropriation personnelle, bien sûr. C'est une lecture encore. On est sur un niveau de lecture.
Oui.
Alors après, plus il y a un témoignage qui demandait justement, c'est l'objectivité de l'œuvre. C'est-à-dire se dire, est-ce que je suis bien en train de regarder la même œuvre que mon voisin? Ben non. Ton regard, c'est ton regard. Donc c'est ce qui est particulier chez l'être humain, c'est qu'on n'a pas tous la même façon de regarder. Puis dans notre interprétation, il y a tout notre vécu qui fait que notre sensibilité... Et alors des fois, elle est partagée, c'est pour ça que des fois, tu as du monde derrière toi et qui partage la même chose, parce que quelque part, elle a eu un petit peu la même éducation ou qu'elle se retrouve dans ce que tu dis. En tout cas, Ben, je sais pas, il faut poser la question à David.
Je pense qu'en fait il y a une part intuitive d'une perte dans la perception d'une œuvre, mais il n'y a pas que cette dimension intuitive. On peut aussi là où la médiation intervient, je pense que c'est davantage dans une partie qui a plus connaissance des démarches de l'artiste, dans quoi il est engagé, et ça apporte un nouveau regard. La dimension intuitive, effectivement, un médiateur vient pas pour vous donner la clé en main d'une lecture d'une œuvre. C'est pas une notice, c'est pas une explication, c'est pas à but fonctionnel. Mais si ça peut donner une lecture supplémentaire à cette première perception qu'on fait par les sens, puisque voilà, c'est une œuvre d'art, c'est toujours par les sens, ou ça peut être intellectuel aussi. En même temps, il y a des arts qui se passent même de certaines approches physiques, qui s'en passent le plus possible. Mais en tout cas, il y a toujours une dimension supplémentaire, ouais, effectivement. Et là, c'est là que la médiation intervient, que la parole intervient. Ouais. Ouais.
Et toi, dans tes expositions, comment est-ce que tu présentes ton œuvre, tes œuvres ?
Ben, je laisse les personnes regarder. Et puis, en fait, quand elles rentrent, je laisse toujours la personne... Alors, c'est pas toujours le cas, puisqu'en fait, on n'est pas toujours présent non plus dans un lieu où on expose. Quand c'est le cas, c'est une grande joie, déjà. Je pense que ça fait vraiment partie... ça fait partie du... C'est dans le rôle de l'artiste. Après ça, c'est chacun qui le définit. Je parle pas pour tous les artistes. Disons que moi, je trouve que c'est très important. Et donc, c'est laisser la liberté aux gens de se surprendre et parfois de nous surprendre, en fait. Puisque il y a aussi des gens qui sont très, très surprenants, quoi. Même quand on fait de la médiation sur d'autres œuvres, il y a des retours étonnants. Il y a des gens... C'est pas du tout une question de classe sociale ou d'appartenance à telle ou telle culture. Il y a des gens qui savent se laisser surprendre. Et vraiment, je repense à un maçon que je croisais au Carré d'Art quand je faisais la médiation là-bas, et qui passait régulièrement et qui faisait toujours tout son petit tour de tous les étages d'exposition temporaire avant de venir me voir. Et toujours en montant la main, en rentrant. Ah non, pour l'instant, je regarde. Je viendrai après. Et ça, je trouvais ça super. Il y a des artistes qui n'ont pas...
C'est vrai qu'on a, pendant très longtemps, on a entendu sur la contemporain, oh ça, mon petit frère serait capable de le faire, ou cette urinoire, ça ressemble à rien, etc. etc. Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu se dire qu'il faut y aller sans préjugés, c'est-à-dire ne pas préjuger de ce qu'on va voir, ou de se dire, ou avoir des a priori, c'est ça?
Ah oui,
pour une approche sur la contemporain.
C'est vrai que ça, c'est toujours difficile. On entend des choses, c'est vrai qu'effectivement, quand vous faites quelque chose. Il y a quand même une histoire très très chargée dans cet art contemporain, avec de grandes questions, quoi. Ouais. Pendant des siècles, la question de la forme, c'était la question essentielle. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que
Picasso, voilà, hein, on traitait de ça beaucoup,
de grandes ruptures. Ouais. On travaille plus avec une perception religieuse de la création. On travaille plus forcément avec des idées comme la perspective de la représentation. Il y a plein de choses qui ont changé. Aujourd'hui, on peut travailler avec des choses très simples. Alors déjà, c'est vrai que ces questions-là, c'est difficile. Quand vous avez quelqu'un qui compare une œuvre d'art contemporain à un Léonard de Vinci, on sent tout de suite qu'il y a un fossé qui va être difficile à combler. Parce qu'il y a un amour du bienfait, de l'image. De la
rigueur de l'exécution, voilà. C'est ça.
Et en fait, peut-être que ces gens-là comprennent pas qu'il y a derrière, effectivement, peut-être que la petite sœur, elle peut le faire. Sauf que la petite sœur, elle passe pas sa vie à le faire. Et c'est aussi ça qui donne la dimension d'une œuvre.
Et puis la petite sœur, elle n'exprime pas la même chose. Voilà. C'est-à-dire qu'un artiste, quand même, faut rappeler quand même que c'est un regard extérieur sur le monde. C'est un regard qui est donné, mais un regard nouveau, quoi. C'est un autre angle. C'est ce qu'a très bien exprimé dans son passage entre la période bleue, la période rose et le cubisme, Picasso. C'est une autre façon de regarder le monde, de mettre la troisième dimension, en gros, à plat, quoi.
Ah, oui.
Alors qu'avant, il était dans du figuratif, il passe dans d'autres conceptions. C'est un autre regard que l'artiste porte sur le monde et qui nous donne à voir ce que nous, non-artistes, on n'est pas capable de faire. On regarde le monde, certes, mais on n'est pas capable d'en donner une image avec un esthétique particulier. Donc, qui peut être, ça peut être beau ou ça peut pas être beau, hein, mais peu importe. Mmh.
Mais disons que c'est, en tout cas, c'est donner à voir. C'est ça qui est important. Ça comprend la critique, le fait d'aimer ou ne pas aimer. Mais si on se pose déjà autour d'un objet sensible, en partageant ce qu'on en pense, déjà on met beaucoup de choses de nous-mêmes, on met beaucoup de choses de notre culture, de notre histoire personnelle, de nos goûts, et puis surtout, c'est vrai qu'il faut se laisser surprendre.
Mais je pense qu'il y a une notion d'éducation aussi, hein, ça. C'est-à-dire que si on arrive sur une œuvre en se disant ben, j'aime ou j'aime pas, déjà je pense qu'on a tout faux. C'est-à-dire qu'il y a dans un premier, dans une première approche, moi c'est ce que je fais dans certains cours que je donne, je dis aux jeunes déjà vous n'essayez pas d'interpréter ce que vous voyez simplement ou d'avoir un sentiment. Essayez simplement de décrire ce que vous voyez. Il y a des traits, il y a des courbes, il y a des aplats noirs, il y a beaucoup de couleurs. Décrivez d'abord, ne portez pas de jugement ni d'intention. Ensuite, dans un deuxième temps, à quoi ça vous fait penser, voilà. Et progressivement, d'une séance à l'autre, il y a déjà beaucoup plus de richesse dans la description de ce qu'on voit, sur les textures, sur l'intensité des couleurs, sur tout ça. Et progressivement, on se dégage des sentiments. Et c'est ça qui est intéressant. Ils découvrent qu'en fait, on a ce potentiel en nous de ne pas être plein de préjugés, mais d'absorber une œuvre et d'en ressortir quelque chose en supprimant le « j'aime pas » ou « mon petit frère aurait pu le faire ».
Non, moi je voulais repartir sur le donner à voir que tu disais, David. Pour donner à voir, il faut des lieux. Et donc j'ai questionné les Mandois sur l'intérêt selon eux de créer un espace dédié à l'art contemporain, à la création et à la diffusion de l'art contemporain, donc en Lozère et à Mende.
Oui, c'est bien, parce que je pense que ça manquait ici un peu. Il n'y a pas vraiment de galerie, ne serait-ce que de galerie d'art tout court. Si c'est de l'art contemporain, c'est encore mieux, parce que je pense que ça peut permettre d'élargir les horizons artistiques de pas mal de gens.
Je pense qu'il serait très intéressant qu'en Lozère, nous ayons un ou des lieux, d'ailleurs, on pourrait très bien envisager que ce soit des lieux sur le territoire avec des liens, qui soient consacrés à la création. Et je trouve que ça serait très intéressant, parce que nous sommes un pays... justement où on a ce poids de l'histoire bien sûr, mais où on a une grosse envie d'aller de l'avant et où on attire beaucoup de créateurs. Les créateurs sont très inspirés par nos territoires.
Oui, avoir mais en deux étapes, une un petit peu d'approche gratuite pour la vulgariser, et puis ensuite si on accroche avoir une, parce que c'est quand même tellement spécial pour moi qui est peut-être un peu trop classique, j'aimerais avoir une étape d'approche avant de tomber sur vraiment des choses qui sont particulières, quoi. Enfin, quand je dis particulières, parce que c'est des choses où j'accroche pas, quoi.
Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, il faut voir où, quand, comment. Ce serait bien que ce soit un endroit qui soit accessible à pied. Donc pas forcément un grand truc excentré. Pourquoi pas. Et après, par contre, que ce soit accessible aux gens... C'est-à-dire que ce soit pas forcément payant, qu'il y ait des choses qui parlent à tout le monde, que ce soit un lieu qui vive et pas qu'un lieu d'exposition.
Ah oui, je trouverais ça particulièrement intéressant, tout à fait, pour partager ça en famille, pour un titre personnel aussi. Oui, tout à fait.
Il parle beaucoup d'un lieu gratuit. Est-ce que vous pensez que la gratuité amènerait les gens ? Parce que je ne suis pas certaine, moi, que le fait que l'espace soit gratuit fasse aller les gens voir de l'art contemporain. Ce n'est pas une médiation, la gratuité, si ?
Ça peut être un facteur déclenchant, se dire, est-ce que je prends le risque de payer ? C'est comme quand on va voir un film, hein, c'est pareil, est-ce que je prends le risque de payer 7 ou 8 euros pour voir...
Les jeunes notamment, oui. Les voient mal, ne serait-ce que donner 3 euros à choisir.
Pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas en plus. Oui. Voilà,
il y a une prise de risque, donc c'est vrai que le facteur jeunes, prix est un facteur important.
Je crois que David, tu as créé un collectif.
On réfléchit aux formes que peuvent prendre justement. Ben nous, en fait, en partant du principe que c'est peut-être tout simplement la présence d'artistes et d'ateliers d'artistes qui créent, qui pourrait être la meilleure médiation possible sur l'art contemporain. On a monté une petite association l'année dernière, et puis on s'est présenté aux élus qui nous écoutent avec une oreille très attentive. Et on essaye d'imaginer un lieu où plusieurs artistes qui, pour l'instant, travaillent sur le territoire. On n'est encore pas très nombreux, mais il y a déjà 6 artistes intéressés par ça. Un lieu d'accueil et de travail. Et qui, en plus, permettrait d'accueillir... Alors là, ça se passe dans la ville de Mende. Mmh. C'est aussi une manière pour, entre artistes, réfléchir à comment est-ce qu'on vient intervenir justement dans ce territoire lozérien. De quelle manière est-ce qu'on pose simplement des œuvres à un endroit, est-ce qu'on joue simplement sur l'insolite sur lequel joue beaucoup l'art contemporain aujourd'hui, ou est-ce que justement on réfléchit à comment comment on accompagne ça par la parole. Alors on s'est dit que pour commencer, peut-être un lieu où travailler, où faire des essais d'accrochage, et qui en plus permettrait d'accueillir d'ici un an ou deux des artistes de passage en résidence qui soient intéressés par ce territoire qui effectivement est riche de plein de choses pour beaucoup d'artistes. Voilà, on essaye de travailler là-dessus.
Est-ce que la rue, c'est pas aussi un espace d'expression pour les artistes? Est-ce que ce serait pas une autre façon pour l'art contemporain? Bon, ça l'est déjà avec des commandes, tout ça, un public, mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas des initiatives d'artistes à mettre en œuvre pour qu'on rende beaucoup plus populaire cet art contemporain?
Dans le cadre de l'art contemporain, c'est une question très particulière, puisqu'en fait, on ne parle pas de spectacle vivant, même s'il y a la dimension...
performance.
Il y a la dimension performance. Outre cette dimension-là, je pense davantage en fait à la sculpture, parce que c'est là-dessus que se pose beaucoup la question, puisqu'en plus, il y a toute une histoire de la commande publique en France qui est une histoire qui n'est pas très démocratique, en fait, avec beaucoup des choses qui indexent le regard, qui expliquent, qui centralisent beaucoup au milieu d'une place. C'est toute l'histoire du socle en sculpture, dont aujourd'hui la sculpture contemporaine se passe, mais elle ne s'en passe pas pour rien, justement. On ne met pas une sculpture sur un socle, justement. C'est aussi pour dire... c'est pas là qu'il faut regarder, quoi. Et du coup, quand on fait ça dans l'espace public, y a beaucoup de réflexions intéressantes qui sont menées là-dessus. Je crois que c'est des réflexions sur les usages c'est quartier par quartier. Enfin, je pense qu'on peut pas arriver comme ça avec un projet tout fait en disant, je le pose là, ça va être génial. C'est un espace public. Alors oui, c'est la rue. Je crois que c'est un peu poreux quand même aussi, l'espace public. Pour moi, c'est aussi un espace de citoyenneté. Ça peut commencer dans le privé, ça peut finir dans la rue ou inversement.
Espace public, c'est l'espace qui voit passer du public, hein, peu importe. Bien sûr. Que ce soit une institution, faire une expo dans un hall de l'administration, ça peut être aussi intéressant, quoi. Hein.
Voilà, ouais. Non, je disais ça simplement parce que tu précisais dans la rue tout à l'heure. Oui. Et donc, je pense que c'est tout un ensemble de questions qui se posent au cas par cas. Et c'est des questions intéressantes. Encore aujourd'hui, il y a des œuvres qui sont installées dans des espaces publics, qui parfois sont démontées. Il y a plein de questions qui se posent du rapport aux usagers, de comment est-ce que la culture, elle s'impose, ou est-ce que vraiment on travaille avec les gens. C'est des questions riches et pièges aussi, hein, parce que c'est pas le but non plus de plaire à tout le monde. L'artiste doit pas oublier de quoi il est porteur. Donc c'est vrai que c'est des questions super intéressantes.
Et il y a aussi, je crois, pas mal le concept d'éphémère, qui se retrouve du coup beaucoup plus dans l'art contemporain que dans d'autres formes d'art. L'année dernière, il y avait eu des mots sur ma ville.
Oui, avec Gérald Brun et puis un artiste.
C'est Sophie, c'était pas Sophie Arlotto.
Sophie
Arlotto.
Tout à fait. Sur la partie graphique sur le sol.
Voilà, qui avait pas mal surpris, en fait. On en avait entendu beaucoup parler.
Là, on est sur l'happening ou sur des choses comme ça, sur la performance. Mm-hmm. C'est vrai que ça peut heurter parce qu'on est... l'écrit libre, c'est du tag, hein, en France, c'est graffiti, c'est tout ça. Bon, ça fait appel à une pollution, hein, visuelle, urbaine, ce qu'on appelle la pollution urbaine. Mais on oublie que l'art est quand même né de ça, quoi, hein. Voilà, que c'est nécessaire qu'à un moment donné il y ait une expression libre et que l'art puisse envahir nos rues ou d'une forme ou d'une autre, que ce soit par l'art brut qui a été très utilisé en thérapie, hein, notamment avec François Toskis, parce qu'il y a un gros patrimoine d'art brut. Aujourd'hui d'ailleurs, l'art brut est reconnu maintenant. On a des grandes galeries, des grandes expos.
De même que le graffiti dont tu parlais, qui rentre dans les musées.
Voilà. Voilà. Oui. Donc tout ça, c'est en évolution, mais il faut qu'on accompagne la société à ces évolutions, qu'on accompagne les gens. Alors sur l'expo dont elle parlait, c'était surtout qu'il y a des gens qui avaient beaucoup réagi en prenant ça pour une
agression.
Une agression du vandalisme.
Ah ouais. Ah ouais.
Enfin, pas beaucoup de gens, mais quelques personnes, mais aujourd'hui, la minorité s'exprime beaucoup. Oui. Par rapport à la majorité. Donc,
C'est vrai. Bon, je suis désolée, c'est très intéressant tout ça. D'ailleurs, on continuera cette discussion après, mais on est déjà un peu dépassé. Donc, je vous remercie tous les deux d'être venus. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce 87e MAG de 48FM. Nous vous rappelons que l'émission sera réécoutable et Oh là là, j'arrive jamais à lire ça. Et donc, dès cet après-midi sur 48fm.org. La semaine prochaine, on se retrouve avec le dernier MAC de l'année, dans lequel nous parlerons cinéma et innovation. Et en attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et on vous laisse avec l'agenda culturel du Conseil Général.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48FM.
Votre agenda culturel du mardi 9 au lundi 15 décembre. On commence mardi 9 avec de la danse et le spectacle CIGTL à la salle polyvalente de Pied-de-Borne à 18h30. CIGTL est la rencontre entre une danseuse, Séverine Parouti, et une chanteuse soprano, Annabelle Play. C'est aussi la rencontre entre la danse contemporaine et le chant, le verbe et le geste, le son et l'image. C'est le désir de s'intéresser aux figures féminines des contes de fées dans la relation entre la voix et le corps, de poser un regard dans le miroir et rendre visibles ces personnages enfouis en chacun de nous. C'est une forêt de ballons blancs où l'on ne rencontre pas un personnage défini, mais des ogresses un peu princesses, des fées un peu sorcières, des reines un peu servantes, à la fois douces, castratrices, méchantes, craintives, bêtes, violentes, naïves, tantôt seules, tantôt multiples, tantôt grandes, tantôt petites. Ce spectacle sera joué pour un tarif de 8 euros et de 5 euros pour un public à partir de 5 ans et c'est proposé par les scènes croisées de Lozère. Le spectacle sera également joué le jeudi 11 à l'Espace des Anges pour un tarif de 5 euros et ce sera proposé par la ville de Mende.
Mardi 9 décembre au cinéma Trianon de Marvejols, donc à 20h30, Les Demoiselles de Rochefort, donc c'est une comédie musicale. Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elles vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin. C'est organisé par le Ciné-Club de Marvejols.
Jeudi 11 à la salle Urbain 5 de Mende, à 10h et à 14h du théâtre avec Abus d'Abus. C'est un théâtre forum comprenant deux représentations théâtrales sur le thème des addictions et quatre sketchs sur les dangers du virtuel, de l'alcool, du cannabis et de la violence routière. C'est un spectacle gratuit proposé par l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie et par le plan départemental d'action et de sécurité routière.
Jeudi 11, à la salle des fêtes de Saint-Germain-de-Calberte à 20h30, du théâtre N'attrape pas froid, ma grand-mère. Nicolas Heredia nous parle de sa grand-mère, pas pour en raconter la vie, mais pour s'attacher au présent, à une peinture sensible de la vieillesse. Avec ce spectacle, il partage une voix et un regard, laissant le spectateur libre de ses propres projections. À travers le quotidien d'une vieille dame et son environnement, un service en porcelaine, question pour un champion, quelques kilos d'orange, un pari match, une boîte de Macédoine, résonneront en chacun de nous, sans doute d'autres grand-mères ou d'autres mères ou pères. 10 euros et 8 euros pour les tarifs à partir de 12 ans, c'est organisé par l'association Route Boy Crew en partenariat avec les scènes croisées. Ce spectacle aura lieu aussi le vendredi 12, donc à la salle des fêtes de Rieutort de Randon, toujours à 20h30, et ensuite le samedi 13 au centre culturel de Bagnoles-les-Bains à 20h30 aussi.
Le vendredi 12 à Bazarou, Art de la Parole à 20h entre Cime et Racine, un haut lieu touristique dans une forêt d'arbres centenaires. Voilà le projet d'une entreprise de tourisme international. C'est sans compter sur les deux habitantes de la plus belle partie de la forêt, une mère et sa fille. Au pays, on les appelle les sorcières. Et dans cette forêt-là, le merveilleux y a bien toute sa place. Dans notre univers contemporain, la magie reprend sa place entre Cime et Racine. Un tarif de 5 euros est gratuit pour les enfants jusqu'à 5 ans et pour les bénévoles de la saison culturelle. C'est proposé par la Compagnie du Lézard.
Vendredi 12 au TMT, donc à 20h30, l'art de la parole. Donc Louis Calaferte, c'est un écrivain français qui est né en 1928, qui est décédé en 1994. Il fut aussi un poète vigoureux et sensible à l'écriture précise et passionnée. Son œuvre se compose d'une centaine de titres, recueils de poésie, récits, théâtre, carnets. C'est surtout l'œuvre d'un mystique laïque qui vécut intensément sa foi dans le siècle. À l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de l'écrivain, l'association Scarabée, sa présidente Guillemette Calfert, et le TMT lui consacre une soirée, donc au tarif de 8 euros, et c'est organisé donc par le TMT.
Vendredi 12, à la salle des fêtes de Saint-Germain-du-Theil, à 20h30, du théâtre, avec Le métier d'homme, petit format. C'est le livre Le métier d'homme d'Alexandre Jolien qui est à l'origine de ce spectacle, et plus précisément le récit autobiographique de cet homme, né infirme ou moteur cérébral, qui livre ici son parcours hors du commun, entièrement construit grâce à la philosophie. Dans le cadre du festival Art des Sens 2014 et suite à sa création à Mende en mars 2013, le spectacle Le métier d'homme revient dans un petit format, jouable dans tous les lieux. Cette forme légère du spectacle est une lecture mise en espace et mise en œuvre d'après la version originale par Thiéphaine Pourcel et avec l'œil bienveillant de messieurs Chaumette et Blangérot. C'est un spectacle gratuit dès 12 ans et qui est proposé par le théâtre Samouraï. Il sera également joué le samedi 13 à la salle des fêtes du Villard à Chanac à 17h30 et 21h et le lundi 15 à l'Antirouille de Mende à 15h et 21h.
Dimanche 14, donc à l'église Notre-Dame de la Carse, à 17h, de la musique avec le concert de Noël, donc chœur, orgue et soliste avec la participation de la chorale chanteloise pour le chœur. Et à l'orgue, monsieur Jean Lartigot, organiste renommé, et comme soliste, Stéphanie Navèche. Un programme avec des œuvres de Mozart, Handel, ou des compositeurs contemporains américains et des chants traditionnels de Noël. Un programme très varié, sous la direction de Jennifer Vanover, chef du chœur de la chorale de Chanteloup. Participation libre, c'est ouvert au tout public, et c'est organisé par la chorale Chanteloup.
Dimanche, toujours à la salle Urbain 5 à Mende, à 17h, le concert de Noël des élèves de l'école départementale de musique de Lozère. Ce sera un spectacle gratuit et tout public et c'est proposé par l'école départementale de musique de Lozère.
Le lundi 15 décembre, pour finir, à 20h15, donc au Ciné-Théâtre de Saint-Chély, Élixir d'amour de Donizetti. C'est un opéra en fait mis en scène par Laurent Pelli. À tous les ingrédients, cet opéra en fait a tous les ingrédients de la potion magique. De magnifiques décors, de la bonne musique, de puissants chanteurs et une histoire digne des meilleures comédies romantiques. Dans un village basque de la fin du XVIIIe siècle, le timide paysan Nemorino est amoureux de la riche et instruite Adina. Quant à elle, peu sensible au charme du jeune homme. Alors qu'Adina accepte la demande en mariage du sergent Belcor, de passage avec ses troupes, Nemorino achète au docteur ambulant Dulcamara un élixir d'amour, qui n'est en fait qu'une bouteille de vin de Bordeaux. Ce qui n'empêche pas le charlatan d'attribuer le mérite à sa potion quand Adina se ravise et avoue son amour pour Nemorino. Voilà, vous pouvez avoir un peu plus de renseignements et de réservation au Ciné-Théâtre de Saint-Chély. Les tarifs sont de 15 euros pour les tarifs pleins, 12 euros tarif réduit et 8 euros pour les tarifs minimum.
Bonne semaine à tous.